18h, 20h.
Votre grand journal du soir.
Nathalie Lévy.
Bonsoir à tous et bienvenue. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre grand journal du soir sur Europe 1. Alors, cette première journée, c'était la reprise. Comment s'est-elle passée? Vous prendrez la parole dès 19h30 pour nous raconter votre reprise, vos doutes, vos questions, les trajets. Tout ça, l'organisation, c'est au 3921, hashtag radio ouverte. Et puis, à la une de l'actualité ce soir, les commerces qui ont rouvert un peu partout en France. Dans quelles conditions? On en parle dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. De retour en studio.
Bonsoir, eh oui,
Sébastien.
De retour en studio. Bonsoir, Nathalie. Bonsoir à tous.
Vous nous raconterez aussi les sensations. 18h20, c'était ce matin sur Europe 1, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, affirmait qu'il y avait plus de risques pour les enfants de rester chez soi plutôt que d'aller à l'école. Qu'en pense le pédiatre Robert Cohen? Il est mon invité dans 20 minutes. Pour les enfants, c'est demain, hein, la rentrée. Et puis pour décrypter toutes les infos du jour de ce premier jour de déconfinement, vos grandes voix dès 18h30. C'est votre grand journal du soir pour écouter ensemble le monde changé. On s'élance jusqu'à 20h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ah oui, il y avait un besoin. Parce que 2 mois sans faire les magasins, c'est ça devient compliqué. Hein.
Bienvenue dans le monde d'après déconfinement jour 1. Les rues commerçantes s'animent, les clients défilent chez le coiffeur et les métros aussi se remplissent.
Mais un monde sous protection. Attention, sous masque, on fait le bilan ce soir de cette première journée.
À Paris et en région, nous serons dans les transports, mais aussi dans les entreprises où les salariés commencent à revenir.
Par rapport à chaque atelier, on a une zone pour rentrer dans l'entreprise. On m'a remis d'abord un masque avant tout, avant de rentrer. Puis ensuite, j'ai reçu ma visière.
Dans ce journal également, la liberté retrouvée de prendre l'apéro.
C'est quelque chose que j'attendais énormément de pouvoir voir mes amis. On va te crier « Coucou, comment tu vas ?» à 2 mètres de distance.
Et oui, il est à nouveau permis de voir ses proches. Mais comment s'y prendre pour ne pas transformer un dîner en bouillon de culture? Les conseils du docteur Jimmy Mohamed à suivre.
Dans ce journal, enfin, l'enquête sur l'épidémie à bord du Charles de Gaulle. On en avait parlé sur cette antenne, le commandement mis en cause pour son excès de confiance.
Et puis Roland Garros, peut-être sans public, le huis clos est envisagé par la Fédération française. La Bourse de Paris démarre la semaine dans le vert, plus 1,3% à 4490 points.
Hello Anissa, la tendance météo c'est avec vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Eh bien ça se calme, en tout cas dans le sud-ouest. Nous n'avons plus que 4 départements placés en vigilance orange, 3 pour pluie, 1 département pour inondation. On vous tient bien sûr au courant puisque la situation évolue au fil des heures avec Météo France. Et je vous donne tous les détails de la météo de demain, bien plus calme et bien moins humide à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
55 jours confinés, puis cette journée, la première d'une nouvelle ère, celle où nous portons des masques pour aller travailler ou faire nos courses, celle où nous retrouvons une certaine liberté de mouvement, mais avec de fortes précautions. Voyons d'abord dans quelle atmosphère ce déconfinement est vécu à Lyon. Avec vous, Jean-Luc Boujon, les commerces sont donc rouverts, les boutiques de mode, les librairies, les coiffeurs. Est-ce que les clients étaient nombreux aujourd'hui?
Alors pas trop ce matin, hein, faut le dire, mais il y a une montée en puissance cet après-midi, et beaucoup plus dans les boutiques en ville, en plein air donc, que dans les centres commerciaux fermés. La palme revient aux boutiques de vêtements par exemple. Il fallait faire une bonne vingtaine de minutes de queue devant chez Zara, mais Asia et Zakaria ne pouvaient plus attendre.
Ah oui, il y avait un besoin. Ah oui, parce que 2 mois sans faire les magasins, ça devient compliqué. Hein.
C'était insupportable. On a la CB qui nous démange, elle brûle, elle nous appelait pendant le confinement, elle nous appelait. Elle nous demandait de l'utiliser. Et aujourd'hui, on l'utilise.
Beaucoup de monde aussi devant les parfumeries Valérie et Marine. Deux copines avaient vraiment envie de se faire du bien après 2 mois de confinement.
Dans le détail, qu'est-ce qu'on a acheté, Val?
Alors, on a acheté des cils, parce que comme on va être masqué, maintenant le regard, c'est très important. Ah. Et puis, qu'est-ce qu'on a acheté? Et puis du vernis, parce qu'il va nous rester les ongles des pieds, les ongles des mains pour
voir. Et puis ça, ils peuvent pas nous le prendre.
Ils peuvent pas nous le prendre.
Non, il y avait urgence. De quoi se faire plaisir, de quoi se faire du bien.
Vous vous êtes retrouvés là?
Ouais, ça commence. Ils vont me rouvrir une terrasse et ça va être bon. Me sortir un rosé, ça sera parfait.
Affluence record aussi chez les coiffeurs qui, comme Michel, patron des Incorruptibles, n'a pas arrêté. Là, il s'occupe de Pierre, qui sait exactement ce qu'il veut.
Extrêmement court, contrairement aux habitudes, encore plus court.
Encore plus court. Ok.
On s'arrête pas 8h, 20h. Les clients, ouais. Tous les 3 quarts d'heure, 1h. Sans qu'il y ait trop d'attente et puis pouvoir désinfecter, bien sûr.
Ouais. Combien de rendez-vous aujourd'hui?
En tout, presque une quarantaine. Là, on est presque complet sur 15 jours. Là, ouais.
Voilà, beaucoup de monde dans les boutiques donc, et plus globalement en ville, pas forcément pour acheter d'ailleurs, mais simplement pour humer à nouveau l'air de cette liberté déconfinée et sans attestation.
Et sans attestation et avec un téléphone qui sonne chez le coiffeur, on l'a entendu, Jean-Luc Boujon en ligne de Lyon pour Europe 1.
Oui, Jean-Luc, on retrouvera d'ailleurs depuis Lille hein, à 18h30 parmi les grandes voies pour voir comment cette journée s'est passée dans les Hauts-de-France plus largement.
D'abord allons à Paris, c'était le point chaud aujourd'hui, les transports en commun avec la reprise du travail progressive. On a vu des images de métro et de RER bien trop remplis ce matin. Quelle est la situation ce soir? Élise Dangean, vous êtes sur la ligne 13 à Asnières précisément. Est-ce que les voyageurs parviennent à tenir la distanciation?
Eh bien, à l'heure où je vous parle, oui, les quais sont presque vides, les rames du métro également, et à l'entrée de la station, deux agents de sécurité surveillent que chaque usager porte bien son masque. Mais attention, la situation n'était pas tout à fait la même ce matin, comme le rappelle Yacine, usager de la ligne 13.
Ce matin, il y avait un peu plus de monde. Ouais. Après, je pense qu'il était 7h15, donc c'est un petit peu normal, quoi. Tout le monde va au boulot.
Alors les problèmes rencontrés ce matin sur la ligne étaient davantage liés aux intempéries, mais depuis, tout est rentré dans l'ordre, raconte Marie-Juliette qui vient de vivre aujourd'hui son grand retour au travail.
Alors là, ça a été très bien, j'ai stressé ce matin, mais là, c'était parfait. Et tout le monde portait le masque, et puis les gens respectaient la mesure de sécurité.
Et la situation pourrait encore s'améliorer demain matin. La RATP prévoit de réguler davantage les flux de voyageurs. Quant à la SNCF, eh bien, elle va ajouter 3 trains supplémentaires sur les lignes B et D du RER.
Élise Dangean en ligne d'Asnières, tout près de Paris. Et ce soir, le premier syndicat à la RATP, l'UNSA, s'alarme d'une affluence, je cite, excessive dans les transports parisiens et annonce qu'il soutiendra tout salarié qui voudrait faire usage de son droit de retrait.
Un peu plus de monde dans les transports car certains ont fait évidemment leur retour au bureau ce matin.
Oui, alors en petit nombre, hein, comme ici à Europe 1 et dans des conditions très encadrées pour bien respecter la distance. Carole Ferry, vous avez passé une partie de la journée en Normandie dans une entreprise de 70 salariés qui fabrique des composants électroniques, IDEQUIP à Bayeux. Comment s'est passée donc cette reprise ?
Alors dans cette entreprise, certains avaient déjà repris le travail depuis quelques semaines, d'autres sont revenus ce matin, comme William, un jeune intérimaire de 20 ans. Comme tous les salariés, il a reçu un mail avant son retour et il a simplement suivi les règles ce matin en arrivant.
Par rapport à chaque atelier, on a une zone pour rentrer dans l'entreprise. Il y avait du désinfectant, on m'a remis d'abord un masque avant de rentrer. Puis ensuite, j'ai reçu ma visière.
Et oui, parce qu'ici, c'est masque et visière, protection au maximum. Au niveau des ateliers également, toute l'organisation a été repensée par le responsable industriel, Thomas Dierre.
Alors, venez voir. Donc par exemple, sur ces établis de câblage, généralement, on a 6 personnes par allée. On a réduit à 3 en mettant en quinconce, de telle sorte que la distance soit maximale entre les salariés.
Pour la pause déjeuner, eh bien, c'est assis seul, impartable. Les machines à café ont été condamnées. Des retrouvailles entre collègues de travail pas toujours évidentes pour Alexandre et Sandra.
Ça, c'est pesant, par contre. On se dit, on a nos collègues à côté, mais c'est vrai qu'on n'a plus ce petit contact.
On sort du confinement, mais on va quand même travailler, mais on est un peu... on s'isole nous-mêmes, en fait, dans l'entreprise, quoi, on va dire.
Alors, il faut parfois parler un peu fort, mais je vous assure, hein, j'ai bien vu des collègues de travail rire pendant leur pause déjeuner.
Voilà, faut ça, c'est encore possible.
Et je vous confirme qu'il faut parler un peu fort à travers le masque. Ouais. Carole Ferry, depuis Bayeux, en Normandie, le masque donc en entreprise, dans les transports. Faut-il le porter dans la rue? À Nice, le maire Christian Estrosi a finalement fait machine arrière. Il voulait l'imposer partout, mais son arrêté était menacé d'annulation. Du coup, le masque sera finalement obligatoire, uniquement dans les rues les plus fréquentées.
En tout cas, il y a un grand changement, hein, Sébastien. C'est la liberté que nous avons tous retrouvée aujourd'hui, celle de nous déplacer dans un rayon toutefois de 100 km et quand même de nous réunir entre amis ou en famille.
Avec donc cette jauge maximum 10 personnes et pour certains ça va commencer dès ce soir, on ne perd pas de temps pour trinquer à la fin du confinement. Est-ce bien raisonnable? Le docteur Jimmy Mohamed va nous répondre dans un instant. D'abord écoutez Sophie, elle rejoint ses amis ce soir.
C'est quelque chose que j'attendais énormément de pouvoir voir mes amis. On sera 3. Et donc l'appart où on va fait 25 mètres carrés à peu près. Quand je vais arriver chez elle, on va se crier « Coucou, comment tu vas ?» Je suis trop contente de te voir à 2 mètres de distance. Après, je vais aller me laver les mains, me changer, histoire de minimiser les risques. Et après, on va se faire un énorme câlin parce que bah, on s'est trop manqué. Et ça fait plus de 4 mois qu'on ne s'est pas vu, quoi. Donc voilà quoi, on va pas mal manger, il y a beaucoup de charcuterie et de fromage au programme, également de la bière, je pense qu'on va vraiment beaucoup discuter, peut-être de la danse aussi, pour se défouler aussi un peu. On aime bien faire ça quand on se retrouve de toute manière. Et je pense qu'on peut tenir une bonne partie de la nuit vu qu'on est assez décalé en termes d'horaire de sommeil avec le confinement. Ça peut finir assez tard. J'ai quand même l'impression de faire quelque chose de pas forcément très bien, mais dont j'ai vraiment besoin parce que ça fait 2 mois que j'ai vu personne. Quoi. C'est un peu des sentiments mitigés.
Ah, les sentiments mitigés de Sophie, jointe par Jean-Jacques Herry. Bonsoir Jimmy Mohamed.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.
Vous nous rejoignez comme chaque soir, docteur. Vous avez entendu Sophie. Beaucoup se demandent un peu comment s'y prendre pour organiser ces apéros ou ces dîners. Quel est votre avis de médecin là-dessus? Quelles précautions vous préconisez?
Alors c'est vrai qu'on a la liberté désormais de pouvoir se réunir à plusieurs, mais on a aussi le devoir de ne pas faire n'importe quoi. Et l'analogie, c'est que si les bars, les cafés, les restaurants sont fermés, ce n'est pas pour se retrouver confiné dans des endroits clos avec une distanciation physique qui ne pourra pas être respectée, propageant par la suite l'épidémie, surtout que nous allons recommencer tous à travailler, donc des gens seront porteurs de façon asymptomatique ou en période d'incubation. Ce qui veut donc dire que si vous devez recevoir des gens, faites-le en petit comité, aérez évidemment la pièce, respectez une distance d'au moins 1 mètre entre chaque personne, évitez les contacts rapprochés et ne passez pas non plus trop longtemps ensemble. L'idée est d'y aller de façon très progressive. On navigue un peu à l'aveugle en ce moment, soyons patients, laissons-nous un petit mois et peut-être que nous aurons un été un peu plus favorable. Mais vraiment, j'appelle à la plus grande prudence, lavez-vous les mains, portez des masques quand vous êtes malade et surtout, évitez tout contact.
Ouais, voilà, il faut les rappeler ces gestes. Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed. On profite, mais on profite avec précaution. À demain dans ce journal de 18h et dès 15h pour son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez.
Il est 18h10 sur Europe 1, la suite du journal. Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Ils sont applaudis chaque soir à 20h. Les soignants qui ont fait preuve d'une extrême mobilisation n'ont pas oublié pour autant leurs revendications pour l'hôpital, le besoin de moyens qui se fait encore plus urgent. Aujourd'hui, les personnels du CHU de Toulouse ont manifesté en respectant les distances. Nous serons sur place tout à l'heure à 19h. Et puis les écoles reprennent vie sans élèves. Aujourd'hui, les enseignants tenaient leur pré-rentrée. Les enfants seront accueillis progressivement à partir de demain.
On va y revenir d'ailleurs sur cette rentrée avec le pédiatre Robert Cohen, mon invité, juste après ce journal-là, dans moins de 5 minutes. Son avis de médecin face aux inquiétudes des parents et des enseignants, on lui posera toutes les questions.
Que s'est-il passé à bord du porte-avions Charles de Gaulle pour qu'au final plus d'un millier de marins soient contaminés? Les conclusions de 2 enquêtes ont été communiquées aujourd'hui par la ministre des Armées, Florence Parly, devant les députés. Pas de faute, dit-elle, mais elle pointe des erreurs et elle tient des propos assez durs envers le commandement de la marine. Écoutez.
En l'absence de cas identifiés, le 30 mars, le commandement a pris la décision d'assouplir les mesures de distanciation très strictes qui avaient été instaurées. Cette décision a été provoquée en raison de la baisse de morale de l'équipage et d'autre part, sans doute, par un excès de confiance du commandement ainsi que de son service médical. En effet, aucun cas n'avait été détecté au terme d'une 14aine jugée comme stricte. Dans ces conditions, le commandement a conclu que le virus n'était pas rentré à bord. Malheureusement, les signaux faibles n'ont pas été identifiés à temps. Les symptômes développés par quelques marins ont été interprétés comme le fait d'états grippaux, dont l'occurrence à bord en cette saison était tout à fait dans les taux habituels.
Voilà, le Covid pris pour une grippe à bord du Charles de Gaulle, la ministre des Armées Florence Parly tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Valéry Giscard d'Estaing visé par une enquête pour agression sexuelle, annonce le parquet. L'ancien président est mis en cause par une journaliste allemande. À l'étranger, certains de nos voisins ont aussi entamé leur déconfinement. Aujourd'hui, les Espagnols peuvent retourner en terrasse, sauf à Madrid et Barcelone. Les commerces sont également rouverts en Belgique. En Grande-Bretagne, le confinement est assoupli mais prolongé jusqu'au 1er juin.
Et puis quand pourrons-nous nous rassembler dans un stade pour de grands événements sportifs? C'est totalement incertain. Hein. Et même au mois de septembre, Roland-Garros pourrait se tenir à huis clos. La Fédération française de tennis l'envisage. Hein.
Son président l'a dit ce week-end au journal du dimanche. Écoutez ce qu'en pense notre consultant européen Cédric Pioline. Bah, du bon sens en fait, il vaut peut-être mieux un Roland sans public que pas de Roland-Garros du tout.
Ce qui est vraiment le plus important, c'est que l'écosystème reparte, la machine se relance. Maintenant, si la seule et unique et dernière option est de disputer l'édition de Roland-Garros de cette année à huis clos, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça serait vraiment dommage d'avoir une année blanche. Je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, ça sera probablement la moins mauvaise. Ça sera vraiment étrange, je dirais, quand on va voir un joueur qui va à un moment serrer le poing, qui va s'encourager, qui va faire un beau point et il n'y aura pas de la réaction habituelle que l'on connaît avec les applaudissements. Tout ça seront des éléments qui manqueront. Maintenant, on sait qu'aussi ça sera exceptionnel.
Ouais, le tennis en silence, on entendra que les balles. Cédric Pioline, joint par Jean-François Pérez sur Europe 1, qui est radio officielle de Roland-Garros, je vous rappelle.
Oui, avec toujours une hésitation aussi sur la date, hein, à partir du 20 ou du 27 septembre, en tout cas à la rentrée, et donc peut-être à huis clos. Merci beaucoup Sébastien, votre retour à 18h30. Anissa, le temps qui se calme, mais attention encore, hein, les vigilances persistent.
Oui, effectivement, ces dernières heures ont été très très violentes dans le sud. Alors il faut savoir que nous avons toujours le département des Landes placé en vigilance orange inondation. Et à cette heure-ci, à 18h14, il y a le Tarn placé en vigilance orange pluie inondation. Vous le disiez Nathalie, ça se calme pour demain, avec toujours sur le sud-ouest, le massif central, les Alpes, des nuages nombreux et très épais, avec même quelques gouttes le matin. Au bord de la Méditerranée, c'est une journée partagée entre nuages et éclaircies. Et pour toutes les régions qui se situent au nord de la frontière, qui va de Bordeaux à Chambéry, donc au nord de la Loire, et bien là, la journée sera très ensoleillée pour vous. Dans le sud, le Mistral souffle encore également, c'est le vent de sud-ouest. Et sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Gironde, c'est le vent de nord-est qui souffle et qui va rafraîchir l'atmosphère. Les températures, elles sont toujours froides, hein, demain matin, avec des gelées matinales dans le nord-est. 3 à 8 degrés sur la moitié nord, 3 pour Strasbourg, 5 à Lille et Paris, 7 à 13 sur la moitié sud. Et puis dans l'après-midi, attention Nathalie, écoutez bien, on aura 10 degrés d'écart entre le nord et le sud. 11 à Dunkerque, 12 à Clermont-Ferrand, 13 à Lille, 16 à Paris, 21 à Nice et jusqu'à 23 pour Bastia.
Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir dans un instant avec votre invitée Nathalie Lévy. Oui, faut-il remettre les enfants à l'école ou les garder à la maison? Jean-Michel Blanquer a affirmé ce matin qu'il était moins risqué de les mettre à l'école alors que c'était aujourd'hui la rentrée, la pré-rentrée des profs. Comment réagit le pédiatre Robert Cohen? Il est mon invité dans moins de deux minutes.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec vous Nathalie Lévy, et à 18h20 vous recevez ce soir le pédiatre et infectiologue Robert Cohen.
Bonsoir professeur Robert Cohen, merci d'être à mes côtés ce soir sur Europe 1.
Bonsoir.
Alors voilà, les enfants prennent le chemin de l'école demain, après les enseignants, c'était leur pré-rentrée aujourd'hui. Jean-Michel Blanquer a été assez formel ce matin, c'était au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Voilà ce qu'il disait pour rappel, écoutons.
Les dégâts sociaux et les dégâts même sanitaires seraient peut-être plus importants. C'est encore une fois ce que disent de nombreux pédiatres eux-mêmes. Vous avez des soins qui ne sont pas faits actuellement, vous avez des enfants qui ont des problèmes alimentaires, vous avez des enfants qui connaissent des violences intrafamiliales. Tous ces sujets-là, il faut les avoir bien à l'esprit. Et puis pour tous les enfants.
Professeur, la voix de Jean-Michel Blanquer à la portée, les enfants reprennent l'école demain. Quelle est votre voix à vous? Alors, on va y venir que dans un instant, que les études quand même se suivent et se contredisent.
Ah, je ne crois pas que... Bon, on est tout à fait en accord avec ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale. Hein, et je vous confirme que depuis des semaines, les pédiatres prennent globalement, sans discrimination positive, sans discrimination, en faveur de la reprise de l'école pour les enfants. Et effectivement, les risques qu'il a identifiés sont ceux-là, et même on pourra en décrire plus. Le deuxième point, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, les études vont toutes dans le même sens. Le risque pour les enfants est extrêmement modeste, il n'est pas nul, du Covid-19, et ils sont moins porteurs du virus, ils sont moins contagieux que les adultes, et ils sont moins contagieux entre eux et pour les adultes. Donc, tout ça, les études, au contraire, s'accumulent en dehors d'un rapport que nous trouvons de qualité extrêmement médiocre de Santé publique France. Toutes les études vont dans le sens.
Alors, permettez-moi simplement. Ouais. Alors, professeur, permettez-moi simplement d'avancer sur cette étude allemande qui a jeté le trouble la semaine dernière, parce qu'ils ont des symptômes légers. Les enfants sont peu testés et peu présents aussi dans les études épidémiologiques. C'est ce qui explique aussi les incertitudes, hein, sur leur rôle dans la propagation du virus. Qu'en est-il? Expliquez-nous.
On va vous expliquer. L'étude allemande montre exactement les résultats que nous avons, et nous avons depuis des semaines et des mois, c'est que les enfants sont beaucoup moins porteurs que les adultes, même quand on les prélève systématiquement. Mmh. Ce que dit cette étude allemande, elle dit simplement que quand un enfant est porteur de virus, il a les mêmes charges virales que les adultes. Donc, le risque pour un enfant donné, s'il est porteur pourraient être théoriquement celui d'un adulte, mais ils sont beaucoup moins souvent porteurs que les adultes. Ils le sont 2 à 6 fois moins, d'accord ?
Mais et la même charge virale, ça voudrait dire que ce serait plus dangereux pour un enfant, donc ?
Non, pas du tout. Ça veut dire que quand un enfant est porteur du virus, il pourrait avoir la même charge virale qu'un adulte. Mais il y a 2 à 5 fois moins d'enfants porteurs que d'adultes. Donc vous comprenez bien que la population d'enfants est beaucoup moins contagieuse que la population d'adultes. Mais on va aller plus loin. Même un enfant avec une charge virale égale, maintenant les études s'accumulent, aussi bien la première en France, mais sur un enfant, en Australie, en Hollande récemment, qui montrent que même quand ils sont porteurs du virus, ils sont moins contagieux que les adultes.
Alors docteur, je vais essayer de comprendre alors, parce que c'est peut-être bête et méchant, mais pour moi c'est pas une évidence. Pourquoi alors refusons-leur, en tout cas pour l'instant, on entend, il faut pas les mettre en relation avec les seniors, avec les personnes âgées, avec les personnes du grand âge. Pourquoi dans ce cas les a-t-on séparés si longuement et encore là durablement?
Parce que l'hypothèse départ, avant qu'on connaisse complètement ce virus, est que les enfants sont très souvent porteurs de virus. Et c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour le virus respiratoire syncytial, celui qui est responsable de la bronchiolite, de la pneumonie. Et les enfants, c'était plus souvent porteurs. On est partis tous, y compris nous. On n'était pas sur cette position-là au départ. Mais au fur et à mesure des semaines de l'épidémie, on s'est aperçu que quand on prélevait des enfants parce qu'on les suspectait, on les voyait très rarement positifs pour ce virus, et avec un ratio de 2 à 6 fois moins.
Donc là, les enfants peuvent retourner voir leurs grands-parents aujourd'hui. Ils peuvent être gardés par les grands-parents si les parents ne peuvent pas les faire garder s'il n'y a pas d'école.
Voilà. Moi, c'est pas à moi de dire ça, mais j'ai une vraie confiance vis-à-vis de ça. Je dis souvent aux parents qui me posent la question, je dis probablement pour vos parents, vous êtes plus à risque de contamination que leurs petits-enfants. Parce qu'ils sont beaucoup plus porteurs que les jeunes enfants.
Professeur, vous lancez vous-même une étude sur les enfants, précisément. Quel en est l'objectif? Qu'est-ce que vous recherchez?
L'objectif, on a lancé le groupe de pathologies infectieuses pédiatriques qui sont les infectiologues pédiatres, a lancé de très multiples études, dont une sur les enfants hospitalisés, dont on aura des résultats très très rapidement, mais on peut vous dire globalement, c'est dans les dizaines de jours qui suivent.
Vous avez déjà une tendance.
La vraie tendance, c'est que la majorité de nos enfants qui ont été hospitalisés pour cette maladie-là, ont été contaminés par leur entourage avant, et pas par l'école. D'accord ? La deuxième étude que nous avons lancée, ce sont une étude à l'extérieur de l'hôpital, sur des patients ambulatoires, vus par des pédiatres, soit parce qu'ils étaient malades, soit parce qu'ils venaient pour une consultation systématique, et on voit de façon identique qu'il y a très 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 peu d'enfants qui sont porteurs du virus, et il y en a un peu plus qui ont été en contact avec le virus. Et y a comme ça beaucoup d'autres études qui vont dans le même sens. On est très confiant sur cela. Donc ça c'est le risque qu'on pourrait s'imaginer vis-à-vis du coronavirus. Mais en médecine, on ne peut pas réfléchir qu'en risque. Il faut aussi réfléchir en bénéfice. Et le bénéfice de la socialisation de nos enfants et du retour à l'école est tellement plus important qu'un risque.
Pourquoi, docteur ? Pourquoi, professeur ? Sur l'aspect psychologique, sur l'aspect social, c'est ça ?
Sur tous les aspects. D'abord, vous avez
Est-ce qu'il ne prend pas sur l'aspect strictement viral, quand même ?
Non, franchement non. Vous savez que le coronavirus chez l'enfant, même en pleine période épidémique, c'était au maximum 10% de prélèvements positifs. Il y avait beaucoup d'autres pathologies infectieuses. Vous savez que les enfants ont très souvent des infections et le coronavirus joue un rôle mineur dans ces infections. Donc le risque infectieux lié au coronavirus existe, mais il est très très inférieur aux autres pathologies infectieuses que nous rencontrons en permanence. Si vous comparez, par exemple, comparaison n'est pas raison, mais si vous comparez, par exemple, le nombre de coronavirus par rapport au nombre de méningites qu'ont tous les ans les enfants en France avec des séquelles et des mortalités, on est très, très, très en dessous.
D'accord. Donc, professeur, vous dites demain,
Ouais. Vous dites demain aux parents qui nous écoutent, vous dites demain, allez-y, mettez vos enfants à l'école parce que de toute façon, il faut les resocialiser, il faut les remettre dans un cycle aussi de rythme scolaire, de rythme de sommeil. Et puis, les grands-parents, allez chercher vos petits-enfants à l'école parce que finalement, c'est bon pour tout le monde.
Alors, je dis sans hésiter, remettez vos enfants à l'école, n'ayez pas peur de les remettre à l'école, et je dis que les bénéfices qu'ils en tireront, non seulement éducationnels, mais aussi pour la socialisation, mais aussi pour leur santé au sens large, est bien supérieur à un risque qui est minime, qu'ils attrapent éventuellement le Covid et qu'ils fassent une maladie significative.
Et la deuxième vague, professeur, d'un mot, parce que si les enfants quand même attrapent à la sortie d'école parce que le va-et-vient des adultes, etc., ça peut pas être ce qui favorisera cette deuxième vague qu'on redoute tant ?
Il n'y a aucune étude aujourd'hui qui montre un cluster partant des enfants ou des écoles. Donc ça, c'est clair. Alors maintenant, à un moment, on pourra toujours décrire une étude, mais jusqu'à ce jour, on n'a aucun argument pour cela. Les adultes entre eux sont beaucoup plus à risque que le sont les enfants vis-à-vis des adultes. Et quand on parle de deuxième vague, vous savez, elle pourra venir peut-être en mai, mais peut-être elle arrivera en septembre, en octobre. Est-ce que quelqu'un a l'intention de fermer les écoles tout le temps ? C'est inimaginable. Donc, ce risque de la deuxième vague, il pourra persister dans le temps, et ce ne sont pas les enfants qui jouent un rôle dans la dynamique de l'épidémie.
Merci beaucoup, professeur, en tout cas, de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé de votre étude également ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup.
Europe 1.
À suivre dans un instant, Nathalie Lévy.
Les grandes voix sur cette première journée de déconfinement, qu'en disent-ils ? À tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20. Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, votre rappel des titres.
La première journée du déconfinement sans incident majeur dans les transports, estime Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Des voyageurs qui ont bien respecté l'obligation de porter un masque, mais une distanciation pas toujours facile à conserver. À 19h, on verra que l'affluence pourrait augmenter encore dans les transports dans les jours qui viennent. Retour à l'école progressif à partir de demain pour un peu plus d'un million d'élèves de maternelle et de primaire. Aujourd'hui, les enseignants tenaient leur pré-rentrée. La ville de Nice fait machine arrière. Les masques ne seront finalement obligatoires que dans les rues les plus fréquentées. Le parquet de Paris ouvre une enquête visant Valéry Giscard d'Estaing. Enquête pour agression sexuelle. L'ancien président de 94 ans est accusé par une journaliste allemande de lui avoir touché les fesses en 2018. Des analyses en cours pour identifier l'origine de cette forte odeur de soufre ressentie en région parisienne. Hier soir, des prélèvements ont été effectués. Il pourrait s'agir d'eau usée ou bien d'un nuage arrivant de l'étranger. La Russie dessert à son tour le confinement. Vladimir Poutine ordonne la fin de la période chômée et payée qui était en vigueur depuis la fin mars. Et puis en Grande-Bretagne, Boris Johnson détaille son plan de déconfinement. À partir du 1er juin, il projette de rouvrir les écoles et de reprendre la saison de football. Mais les pubs ne seront pas ouverts avant le début du mois de juillet.
Merci beaucoup Sébastien. Anissa, toujours des vigilances du côté du temps de demain.
Oui, alors ça va un petit peu mieux. Nous n'avons plus que deux départements en vigilance orange. Les Landes, vigilance orange, inondation, et le Tarn pour pluie et inondation. C'est vrai qu'en début de journée, on avait 26 départements en vigilance. Donc là, ça se calme un petit peu, mais il a beaucoup plu dans le sud-ouest. Alors demain, ça se calme. On aura moins de pluie sur le sud-ouest, le massif central et les Alpes. Le temps reste très nuageux. Au bord de la Méditerranée, c'est plus ensoleillé. Et puis ensuite, vous vous donnez une limite à peu près au niveau de la Loire. Entre Bordeaux et Chambéry, vous tirez un trait. Tout ce qui se trouve au nord de cette limite sera sous le soleil demain, avec une journée plutôt agréable. Les températures, elles, en revanche, restent très fraîches.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et jusqu'à 19h, c'est une tradition. On s'intéresse aux dernières infos du jour, on les décrypte, on les comprend, on zoome dessus grâce à nos grandes voix avec Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Emmanuel Dutheil, chef du service Économie. Et toute cette semaine, nous allons vivre le déconfinement à travers toute la France grâce à nos correspondants. Et ce soir, nous sommes à Lille avec Lionel Gougelot.
Bonsoir les grandes voix, bonsoir Lionel Gougelot depuis Lille, bienvenue.
Bonsoir Nathalie,
bonsoir à tous.
J'adore cette chorale. Je ne m'y fais pas. Ève Roger, je vais m'intéresser à vous dans un premier temps parce que on parle beaucoup, bien sûr, de cette rentrée scolaire un peu particulière, même complètement particulière, demain inédite même pour 1,5 million de scolaires, d'élèves. On a entendu le professeur Robert Cohen il y a une seconde. Bien sûr, les enseignants ont pris les devants aujourd'hui, pré-rentrée, et demain, quid de nos enfants? Ça va être évidemment bouleversant, ou sans doute, ou questionnant, en tout cas pour beaucoup de parents. Les enseignants, avez-vous eu des retours de ce premier jour?
Ah oui, alors, il y a eu une conférence de presse du SNUIPP, qui est le premier syndicat du primaire, et je dois dire que ça a duré une heure, et c'était assez négatif. Hein. Beaucoup d'inquiétudes, une sensation à la fois d'une date prématurée, pourquoi si vite, pourquoi le 11 mai, et puis un sentiment d'abandon. Ils ont dit une phrase qui m'a frappée, ils disent « Quand le ministre dit « on est prêt », les enseignants entendent « débrouillez-vous ». Vous voyez, ils ont le sentiment d'être un peu jetés en pâture, comme ça. Alors, on a entendu le ministre ce matin à l'antenne d'Europe 1 qui disait le protocole sanitaire, on m'a reproché tellement il est lourd, tellement il est compliqué. Il fait 60 pages et c'est vrai qu'il a essayé de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour protéger à la fois les enfants et les enseignants. Mais je pense qu'il y a une vraie difficulté de communication entre le ministre qui dit il faut y aller, allons-y, ouais. Et puis les enseignants qui ont le sentiment d'être un peu son bras armé sans être vraiment ni considérés, ni leur inquiétude doit être considérée. Et c'est vrai, quand on entend le pédiatre Robert Cohen dire à quel point, finalement, l'école n'est pas un lieu dangereux ni pour les enfants, ni pour les adultes, c'est vrai qu'on a du mal à l'entendre. Vous voyez, on a dit tellement l'inverse au début de l'épidémie que... Ouais. On a du mal à le croire. Ouais. Et je pense que petit à petit, je vous l'ai dit déjà, c'est comme un entraînement, quoi. C'est une petite rentrée. Il y a 10 élèves par classe. On s'entraîne. Et puis en septembre, comme ça, on sera bien, on sera au clair, on sera tranquille, quoi. Et voilà, ça, je trouve que c'est vraiment important.
Espérons et effectivement rassurons malgré tout les parents demain qui vont laisser leurs enfants, parce que il l'a dit, hein, le professeur, les enfants ne sont pas contagieux, quant à la charge virale elle est modeste voire nulle, ce sont ses mots.
C'est-à-dire que les risques, ils sont deux à six fois moins. C'est ça qui est important. Exactement. Que les adultes.
Regardons les transports, parce que c'était aussi le gros point évidemment à scruter depuis ce matin. Emmanuel Dutheil, les transports, ça a plutôt bien fonctionné et là on est à l'heure de pointe ou presque. Quid?
Oui, effectivement,
transports.
Des remontées que l'on a pu avoir soit de la RATP, soit de la SNCF, et également des constatations qui ont pu être faites par les excellents reporters d'Europe 1 tout au long de la journée, à l'exception d'un problème, mais qui semble plutôt être généré par la suite des inondations sur la ligne 13, hein, pardon pour ceux qui vivent hors de Paris, mais la ligne 13 du métro parisien. Ça s'est effectivement plutôt bien passé. Mais c'est assez logique puisque personne ne s'attendait à un véritable problème aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui le problème. Pourquoi? Parce que la reprise se fait véritablement en douceur, comme vous le disiez très bien à l'instant avec Ève Roger. Tant que les écoles n'ont pas véritablement repris, beaucoup de familles ne peuvent pas reprendre normalement le travail. Et par ailleurs, énormément d'entreprises ont adapté le retour à ce qui a été dit la semaine dernière par le Premier ministre. C'est-à-dire, tous ceux qui sont en télétravail et qui peuvent le rester... doivent le rester. C'est un point extrêmement important. Donc c'est pour ça que pour le moment, ça ne se passe pas trop mal dans les transports. Mais c'est pas parce que ça se passe bien aujourd'hui que ça va bien se passer dans les jours à venir. Puisque, bien évidemment,
il faut scruter pour la semaine prochaine notamment. Mais ce sera une espèce de.
Mais Ève Roger qui prenait un très bon exemple pour l'école en disant c'était un entraînement. Il faut considérer que chaque jour qui se passe pas trop mal aujourd'hui dans les transports. C'est un entraînement qui se répète, qui se répète. Et puis, bah vous savez, hein, comme ceux qui se préparent pour le marathon, on court un peu plus à chaque fois. Bah, comme si je l'avais fait une fois dans ma vie en même temps. J'en sais rien, je sais pas comment on se prépare, mais j'imagine qu'on fait comme ça. Et bien voilà, là c'est le marathon de la reprise.
Allez, le petit marathon jusqu'au Grand Est avec Lionel Gougelot. Bonsoir Lionel. Transport et école chez vous pour cette première journée. On fait la doublette en quelque sorte parce que, on l'a dit, hein, ce sont les deux gros points à scruter.
Oui, effectivement. Il a parfaitement raison, Emmanuel, parce que ici aussi, on a bien remarqué que c'était en quelque sorte une sorte de journée d'observation, hein, aussi bien pour les opérateurs de transport que pour les usagers. C'est notamment vrai pour ce qui concerne les transports de la métropole illoise, hein, bus, métro et tramway. Il y avait une offre de 70% qui était mise en place ce matin. Mais bien, il n'y a pas eu de rush, hein, dans le métro ni même dans les bus. Les gens ont visiblement se sont réappropriés vraiment très progressivement. progressivement leurs moyens de transport, ce qui fait que bon bah voilà, il n'y a pas eu d'embouteillage dans la gare de Lille par exemple. C'est le même scénario, hein, si je puis dire, du côté de la SNCF. Là on attendait 20 à 30% d'occupation des rames pour les trains régionaux. Bah, c'était à peu près le cas, avec une particularité ici, c'est qu'il fallait avant de prendre son TER, il fallait avoir réservé sur internet un coupon pour pouvoir justement accéder au train, et ça avait été mis en place pour limiter l'afflux de voyageurs. Bon, ça a été plus ou moins bien compris par les voyageurs, mais la SNCF indique qu'elle va être relativement compréhensive pour ce qui concerne les prochains jours. Mais effectivement, la véritable inquiétude, ça va être d'ici une dizaine ou une quinzaine de jours, quand il y aura vraiment le retour au travail, et que l'économie aura vraiment repris, quoi.
Alors, on va évidemment parler politique avec Michaël Darmon, parce que il s'est dit beaucoup de choses en fin de semaine et ce week-end sur un nouveau groupe qui commencerait comme ça à prendre ses aises et s'opposerait à Emmanuel Macron avec des députés frondeurs. Michaël Darmon, où en est-on et quelle est la réaction du côté de l'exécutif ?
Alors c'est vrai que c'est un peu le feuilleton en coulisses qui agite maintenant l'exécutif. Alors ça peut paraître très loin, hein, de tous les sujets qui nous préoccupent, et au premier plan, ça peut paraître effectivement pour une démarche un petit peu manœuvrière et politicienne, mais en fait c'est quand même fondamental, parce que ce qui est en train de se passer, c'est le début tout simplement de la fameuse recomposition politique qui est en train de se mettre en place à gauche pour 2022. Je m'explique. Effectivement, la semaine prochaine, il y aura donc la création d'un 9e groupe à l'Assemblée. On l'avait déjà suffisamment évoqué comme étant se préparant. Maintenant, effectivement, cette scission va être effective. Elle sera composée d'une trentaine de députés réunis autour de Mathieu Orphelin, l'ancien marcheur à la sensibilité écologiste. Et en fait, c'est tout le pôle gauche de la Macronie. C'est toute la deuxième jambe du en même temps qui s'en va. Et ouais, ça permet de comprendre à quel point, effectivement, c'est important, parce que c'est le système donc de dépassement des clivages, du en même temps qu'avait posé donc le candidat Macron puis le président élu, qui est en train de tout simplement de tomber.
En même temps, il y avait eu tellement de tergiversations. Finalement, tout ça est assez logique dans une démocratie et à un certain stade du mandat. Michaël Darmon, la question c'est aussi comment prend-il les choses, Emmanuel Macron? Il y a tout qui se télescope là.
Effectivement, ce qui est logique, c'était que tout simplement cela continue dans une logique de rassemblement. Maintenant, on voit bien qu'il y a une fracture. Comment il prend ça? Bien, je vais vous dire, de manière un petit peu, je dirais, faussement indifférente. D'abord, il a effectivement dit, hein, selon des proches qui m'ont rapporté ses propos, j'en ai rien à faire. De toute façon, j'ai toujours travaillé avec François Bayrou. Je continuerai à travailler avec François Bayrou. Pourquoi font-ils ça maintenant? Et puis, dans un deuxième temps, au cours toujours des consultations ce week-end, eh bien, il a donné, sur la base de conseils qu'on lui a prodigués, il a accordé effectivement cette consigne en disant « il ne faut pas les exclure ». Il ne faut pas les exclure, parce qu'en fait, ils peuvent rester avec cette double appartenance, parce que comme ça, on dira tout simplement, eh bien, qu'un pôle gauche est officiellement constitué, et ça permettra de pouvoir élargir éventuellement un rassemblement pour l'élection présidentielle. En clair, il applique le vieux principe politique, quand un mouvement vous dépasse, eh bien, vous feignez de tout simplement de l'accompagner ou de l'organiser.
Surtout ne pas les braquer.
C'est assez classique.
Oui, c'est ça. Ne pas les braquer, hein, pour essayer aussi d'avoir un œil continuellement.
Parce que l'enjeu est fondamental pour rassembler au-delà de son camp pour la prochaine élection présidentielle.
Oui, évidemment. On va se retrouver dans un instant, les grandes voix, bien sûr, avec d'autres sujets que vous allez commenter. Et puis votre première journée de déconfiné, ça a donné quoi? Vous me direz ça à la fin. À tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie. Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, votre grand journal du soir avec les grandes voix.
Emmanuel Duteil, la reprise pour les commerçants aujourd'hui, bien sûr, les coiffeurs en tête, que dire, hein, je crois qu'il y en a qui ont ouvert dès hier minuit, mais plus globalement, hein, les entreprises, ça y est, ont rouvert leurs portes, l'activité a repris, et comment?
Oui, effectivement, alors là encore, hein, de ce qu'on a pu aller constater directement du côté d'Europe 1, du côté là, des grandes enseignes, notamment de l'habillement, il y avait du monde, mais alors, attention, il ne faut pas se tromper, il y a du monde dehors qui fait la queue, puisque aujourd'hui, on n'a pas le droit d'entrer à beaucoup dans ces magasins. Donc, Donc, quand je vois, par exemple, sur le réseau social Twitter, il y a eu beaucoup de critiques en disant les gens n'ont rien d'autre à faire que d'aller s'acheter d'événements le premier jour du déconfinement. Moi, j'ai envie de dire, chacun fait bien ce qu'il veut. Si c'est un moyen de vivre son déconfinement, c'est pas mal. Et par ailleurs, ces enseignes, et notamment les petits indépendants de l'habillement, ont été, bien évidemment, extrêmement touchés par cette crise. Donc, semble-t-il, il y a effectivement un petit peu de monde qui retourne du côté, notamment des grandes enseignes. En tout cas, c'est ce qu'on a pu vérifier. Tout en sachant que, là aussi, ce lundi est une journée un petit peu particulière, puisque notamment en province, c'est quand même une journée où certaines boutiques sont encore fermées ou font des demi-journées le lundi. Donc, du coup, c'est un petit peu compliqué d'avoir une vision globale de la reprise d'activité. Ouais. Mais là encore, de ce qui nous remonte, c'est que ça se passe plutôt bien. Et je ne sais pas si vous avez eu le temps un petit peu, Nathalie, d'aller vous balader aujourd'hui, mais très clairement, partout, les protocoles de sécurité ont bien été mis en place. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, moi j'ai essayé d'aller chez Zara ou ce genre de choses pour voir juste à quoi ça ressemble.
Ah, ça, vous dites ?
Non, je vous assure, vous savez, ça se saurait si j'étais doué en mode. Mais au-delà de ça, je peux vous dire que partout, tout a été bien installé.
Bon, je reviens vous voir, Emmanuel Duteil. Lionel Gougelot, je voudrais, faites-moi une petite photo de Lille aujourd'hui, parce que évidemment on est dans le Nord avec vous. En termes de commerce, en termes de vie, en termes de voilà, de mouvement dans les rues principales, globalement.
Vous savez, on s'était presque habitué à voir, vous savez, la fameuse grande place de Lille avec la statue de la déesse. On s'était presque habitué depuis deux mois à la voir complètement vide. Et je vous assure que le fait de voir quelques promeneurs, quelques badauds ce matin, ça nous a fait presque tout drôle, quoi, finalement, de voir finalement cette place. Cette grande place de Lille réinvestie par les promeneurs et les badauds. Et là encore, je confirme ce que vient de dire Emmanuel Duteil. On a vu effectivement des files d'attente devant certains grands magasins comme la Fnac ou le Furet du Nord, le célèbre Furet du Nord, ou encore le Printemps. Mais pas parce qu'il y avait un rush, tout simplement parce que les distances de sécurité étaient respectées par les clients. Mais il y avait quand même donc effectivement une espèce de mouvement quand même vers les commerces et l'envie de retrouver, à travers la consommation et les commerces, de retrouver une vie normale. Et puis, l'autre image du jour, c'est le parc de la Citadelle, la fameuse Citadelle de Lille. Vous savez, un grand parc de promenade qui était fermé là encore depuis deux mois. Et bien justement, Martine Aubry, ce week-end, a obtenu une dérogation spéciale de la préfecture pour ouvrir ce parc de la Citadelle. Et là aussi, c'est tout à fait symbolique d'une vie normale qui reprend ici à Lille. Et on a vu quelques promeneurs sous le soleil, malgré un vent qui soufflait très fort aujourd'hui sur la métropole lilloise. Mais il y avait du soleil et donc on a vu des promeneurs réinvestir ce fameux parc de la Citadelle.
Avec les bonnes distances et les masques qui vont bien. Michael Darmon, j'arrive dans une seconde. Eve, évidemment, une question sur les clusters et les risques de retour de l'épidémie. Ça trotte quand même dans tous les esprits.
Pardon, ça c'est sûr que 4 nouveaux foyers épidémiques, comme on peut dire en français, ça peut nous inquiéter. Il y en a 4 dans une réunion familiale, dans un collège, dans une entreprise agroalimentaire en Vendée, et même dans un foyer de jeunes travailleurs. Donc on a vraiment comme si c'était des cas types, mais à chaque fois, il ne faut pas s'inquiéter. C'est vrai qu'à chaque fois, non seulement il y a moins de 10 contaminés à chaque fois, et à chaque fois, là aussi c'est comme une sorte d'entraînement, à chaque fois les ARS ont réagi et ont remonté la chaîne de contamination. Vous savez, c'est un peu comme au début de l'épidémie. On arrive à la contrôler, cette transmission du virus. Donc, il faut savoir que ça veut dire que c'est normal. Il y en aura d'autres, beaucoup d'autres, parce qu'à partir du moment où on déconfine, il y en aura d'autres. Mais on sait maintenant les contrôler. Ouais. On a une capacité de test aujourd'hui qu'on n'avait pas au mois de février. Ouais. Donc, je pense qu'il faut être... C'est tout à fait normal. Et la deuxième chose, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette deuxième vague. Et c'est vrai que moi, j'y ai passé tout le week-end en me demandant, mais est-ce que cette deuxième vague va arriver ou pas
Ouais.
Et en réalité, j'ai interrogé tous les gens que je connais, je les ai appelés, et tout le monde, personne ne peut le dire aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a deux écoles. La première école qui dit la deuxième vague ne viendra pas parce qu'on est éduqué maintenant. On connaît la distanciation sociale, on a des masques, on a des tests. Donc c'est possible qu'on arrive, nous, mais c'est nous les acteurs de cette possibilité. Et puis la deuxième école, alors qui est un peu plus contestable, c'est-à-dire, c'est toujours... Alors je vais résumer, mais si on m'entendait, on va me dire que c'est faux, mais c'est quand même toujours cette idée de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'un virus infectieux, quand ils sont viraux, et bien ils se transmettent plutôt à l'hiver parce qu'on vit confiné. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on va se déconfiner et qu'on va pouvoir se balader, qu'on ne sera plus obligé de rester dans les pièces parce qu'il fait froid et parce qu'il pleut, là il y a une possibilité que ce virus soit moins actif qu'en février. Voilà, en gros, deux écoles.
Alors ça, c'est ça.
Mais en réalité, je crois que même après, si cette deuxième vague ne venait pas, Eh ben, je pense que personne ne saura dire pourquoi. En tout cas, pas tout de suite.
On va se retrouver les grandes voies, on va poursuivre hein, dans un instant sur les relocalisations. Emmanuel Duteil, vous allez nous expliquer hein, comment Bruno Le Maire voit les choses. Hein. Ce serait du donnant-donnant en quelque sorte. Michael Darmon, je reviens également vous voir. A tout de suite les grandes voies.
C'est votre grand journal du soir jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voies jusqu'à 19h.
Oui, avec les questions économiques qui sont prégnantes maintenant que le déconfinement est là. Emmanuel Duteil, Bruno Le Maire a dit évidemment banco aux relocalisations, bien sûr, avec les sommes qui iraient avec les aides qui iraient avec.
Oui, c'est ça. Il faut voir plutôt à l'inverse. C'est-à-dire que ce qu'il a dit ce matin, le ministre de l'Économie, c'est « moi, je veux bien payer ». Il a pris l'exemple du secteur automobile. « Je veux bien payer. Je veux bien faire un plan de soutien à la filière automobile hein, qui se trouve aujourd'hui dans une situation cataclysmique ». Mais il faut des contreparties. Il y a deux contreparties. La première, on la connaissait, hein, c'est-à-dire plus question de financer le moindre modèle thermique, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des modèles électriques, vers des modèles autonomes, vers des modèles qui consomment beaucoup moins. Donc ça, oui, pour mettre de l'argent si ça permet de financer cela. Et la deuxième condition qu'il a mis aujourd'hui, qui est une condition un petit peu plus nouvelle, il va falloir relocaliser en France. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant, puisque que ce soit Peugeot ou Renault, si on pense à nos deux principaux constructeurs qu'il va peut-être falloir aider, en tout cas Renault, on est déjà en train de les aider, ben, ça veut dire ramener beaucoup d'emplois possiblement, puisqu'aujourd'hui, Renault produit énormément au Maroc. PSA produit également en Europe de l'Est. Donc, ça veut dire possiblement ramener beaucoup de compétences. Alors après, il n'a pas répondu à la question, est-ce qu'on est capable de produire des voitures au même prix que dans ces produits-là. Est-ce que les Français derrière, ou ceux qui achètent les voitures françaises, sont prêts à payer plus cher ? Mais il n'en reste pas moins qu'on voit bien que cette crise est en train de changer dans le logiciel commun quand même deux éléments importants. Et je crois qu'il est relativement sincère, le ministre de l'Économie, quand il dit qu'il voit tout à l'aune de la croissance verte. C'est vrai chez Air France, par exemple. Alors, ça va leur permettre de justifier des suppressions d'emplois. Mais chez Air France, quand le ministre dit « il n'est plus question que les vols à moins de 2h30 de Paris en train se poursuivent en avion au départ d'Orly », c'est quelque chose de très fort, parce qu'on parle, je crois qu'on en parlait ensemble la semaine dernière, mais on parle de Paris-Nantes, de Paris-Lyon, de Paris-Bordeaux. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est des éléments qui sont intéressants de voir ces deux points, la croissance verte et la possible relocalisation.
Mais j'ai envie de dire, mais avec le prix des voitures, comme vous le dites, parce que d'ailleurs le président de PSA, hein, Louis Gallois, il lui a répondu, hein, il lui a dit « ok, mais est-ce que les gens sont prêts à payer leur voiture plus cher ?»
Exactement, c'est pour ça qu'on est un petit peu dans l'incantatoire aujourd'hui, mais il n'en reste pas moins qu'il y a peu de moments dans la vie d'une entreprise où l'État peut faire pression sur elle. Et le moment où l'État peut faire pression, c'est quand il paye. Et là, il peut imposer des petits changements.
Un peu plus. Alors voilà, on verra. En tout cas, du côté de l'État, justement, Michael Darmon, y a du grabuge, hein, mais ça, on le savait déjà depuis quelques jours. De la friture sur la ligne entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. 3 ans, hein, le couple. Enfin, l'amour, normalement, dans le couple. Allez-y.
Oui, c'est écoutez, ça, oui, d'accord. Ah, donc c'est une question ouverte. Je ne vais pas vous faire une théorie sur les 3 ans de l'amour dans le couple.
C'est comme vous voulez. Hein,
Non, c'est parce qu'en plus, on est court. Mais en réalité, effectivement, la question de l'avenir du couple exécutif, en tout cas, se pose de plus en plus. Du côté de Matignon, on estime vraiment off, que peut-être après les municipales, vraisemblablement, il pourrait y avoir une décision donc du président de la République. Mais vous savez, il est assez surprenant, assez versatile. Et donc, on va dire que tout est possible.
Ah oui, quand même, parce que on entend quand même dans l'entourage d'Edouard Philippe qu'il est très en colère,
Il est colère, eux aussi sont colère. Ils ont été, vous savez, le déconfinement a tendu tout le monde, hein. Et il a effectivement reconnu lorsqu'il a fait son interview dans la classe en disant on est tous énervés par la tension qui a duré, une manière de reconnaître qu'effectivement c'était pas très facile. Mais là, il y a l'enjeu de réussir devant donc les Français ce processus de déconfinement. Et puis ensuite, bien sûr, il sera temps, et ça viendra quand même assez rapidement, il sera temps aussi de dégager le bilan politique, on l'a vu tout à l'heure, et d'autre part, de pouvoir justement lancer cette fameuse réinvention, si tant est qu'elle puisse exister réellement, comme l'avait annoncé donc le président de la République. Est-ce qu'il y aura un processus d'unité nationale? Quel corpus politique? Quel projet? Faudra-t-il changer de Premier ministre? Toutes les questions se poseront, et bien évidemment, la première d'entre elles, quand auront lieu la fin des élections municipales? Ce sera le marqueur de tout ce qui se passera après.
Bien sûr. Allez, en 15 secondes chacun, faites-moi votre petit tour de cette première journée de ce nouveau monde, première journée de déconfiné. Ève Roger.
Alors moi, j'ai deux choses qui m'ont frappée. D'abord, c'est les cheveux de mes collègues. J'ai jamais vu les hommes avec des cheveux aussi longs. C'est assez frappant. Il y a même Emmanuel Dutheil devant moi, d'ailleurs. Cette coupe lui va très bien.
Il reste bronzé.
Comme ça, voilà. Mais non, mais ça, voilà. C'est, tout le monde n'est pas bronzé. Et la deuxième chose, c'est les masques toute la journée. C'est extrêmement difficile à les garder. À garder. Et en particulier quand on a des lunettes, il y a de la buée qui arrive. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc je pense que là, vraiment, il y a un vrai travail d'éducation à faire.
Bon, alors voilà pour Ève Roger, les plus et les moins. Emmanuel Dutheil, alors ?
Bien, moi, pour être très honnête, j'appréhendais beaucoup cette rentrée. J'étais relativement bien dans mon confinement, comme vous le savez, au fin fond de ma Vendée, où j'étais très heureux. Donc, j'appréhendais vraiment de me retrouver confronté dans une zone rouge, à la foule et à ce genre de choses. Et j'ai beaucoup apprécié retrouver mes collègues, je dois bien le reconnaître, retrouver une vie de rédaction, retrouver une réflexion en commun, autre que par le, téléphone. Donc, ça, c'est plutôt bien. Donc, pour le moment, j'ai pas vraiment de points négatifs. Si les masques, parce que comme Ève Roger, je vois que dalle. Donc c'est vrai que je passe ma journée à me nettoyer mes lunettes.
Michaël Darmon, vous êtes confiné, déconfiné, vous pas encore, vous êtes encore un peu entre deux.
Oui, c'est un petit peu mon état général. Non, en réalité, l'énigme quand même de ce déconfinement, est-ce qu'on applaudira encore à 20h ?
Voilà. Ah, moi aussi, ça me tracasse. Ah, oui.
Et pendant combien de temps ? Avec
vous. Je me suis posé la même question. Bah écoutez, on sera là à 20h, je peux vous le dire. Et quoi qu'il se passe, on notera et on commentera à l'antenne en direct. Donc on pourra vous le dire et de toute façon vous le remarquerez parce que vous serez certainement pas loin de vos domiciles. Je ne sais pas si Lionel Gougelot est encore avec nous depuis Lille.
Bah oui.
Parce qu'on va se retrouver. Voilà, on va se retrouver dans un instant. Vous aussi, alors dites-moi, Lionel.
Bah moi j'ai passé l'essentiel de ma journée justement au contact des personnels enseignants pour différents reportages pour l'antenne d'Europe 1. Et moi j'ai rencontré des personnels motivés malgré tout. Et surtout, vraiment dans l'attente de retrouver leurs élèves, même s'il y a cette pointe d'angoisse par rapport au virus. Mais je pense que l'envie de retrouver les élèves et l'envie d'enseigner prenaient le dessus, en tout cas par rapport aux gens que j'ai rencontrés aujourd'hui.
Mais vous, vous m'avez pas parlé de vous. Hein.
Oh bah écoutez, moi, ça fait 3 semaines maintenant qu'on est retourné sur le terrain avec donc, les autres correspondants d'Europe 1. Donc, effectivement, avec toujours les gestes de sécurité, je vous rassure, le micro au bout de la perche et le masque.
Bon, et Michaël Darmon nous dit qu'il est allé chez le coiffeur, il n'a pas voulu le dire on, mais je le sais. Voilà, rien de plus.
J'ai réussi.
Merci les grandes voix, c'était un plaisir. Nathalie. Merci, on passe la semaine ensemble. À demain.
Merci. Le sommaire du 19h. Du soir, c'est jusqu'à 20h. Avec la suite du programme, Nathalie.
Oui, le sommaire de 19h. D'abord, Sébastien Krebs, dans un instant, les enfants qui retournent à l'école demain, on vous raconte comment. Et puis, on est. Avec un jour d'avance, on prend un temps d'avance. Oui, demain, comment ça va se passer dans les transports ? Réponse dans le journal. Demain, la justice, toujours confinée. À 19h20, l'avocat Éric Dupond-Moretti, un homme en colère, on lui posera la question. Et puis à 19h30, après cette première journée, comment s'est-elle passée ? Vous, racontez-nous. Et comment vous vous préparez à demain au 3921, hashtag Radio Ouverte. Ensemble, on se tourne vers demain et on écoute le monde changer. Ça se passe sur Europe.